Nous aurons plusieurs orateurs suivant notre ordre du jour, ainsi que des cadeaux supplémentaires. Aujourd'hui, à 9h du matin, nous allons prendre la dernière tasse de café et nous irons dans la session de sécurité. Puis, on aura encore 1h30 pour résumer quelles ont été vos impressions de la semaine. Je sais que l'on va pleurer et ça arrive toujours. Alors, on va passer pas mal de temps ensemble aujourd'hui. Nous aurons différentes sessions et je veux souligner tout spécialement le forum public qui aura lieu cet après-midi. C'est obligatoire, d'après mon point de vue, pour ce programme parce que c'est là où on se rejoint tous ceux qui participent de ces réunions pour donner notre avis. On va parler de mise à jour de politique, on va présenter des opinions sur les démarches suivies par l'ICANN, le conseil, la communauté, le conseil qui écoute, qui répond, qui réagit, puis il y a les membres du personnel de l'ICANN. Et c'est donc l'occasion pour chacun de vous de prendre le micro, de parler. L'ordre du jour est stipulé par le conseil et par le personnel de l'ICANN. Il y a un temps consacré pour chacun des points de l'agenda, pour les GTLD, pour JUICE, etc. Et vous, comme membre de la communauté, vous avez ces limites qui sont établies dans l'ordre du jour. Lorsque l'on parle d'un sujet, c'est le seul sujet sur lequel on puisse faire un commentaire ou poser une question. Et si quelqu'un veut poser une question ou des commentaires sur toute question liée au sujet en question, vous pouvez le faire. Il y a une montre, une horloge qui vous dit quel est le temps restant. 2 minutes, 3 minutes. Et vous devez respecter le temps de mise à disposition du micro. Et tout d'abord, vous vous présentez. Je m'appelle XX, je suis gérant, par exemple, je suis Janice et je parle au nom des fellows. Et tout le monde sait que dans la transcription, on va savoir qu'il s'agit d'une opinion personnelle. Ce ne sera pas le cas, mais ce n'était qu'un exemple. Si vous n'avez pas la permission de votre organisation et si vous ne représentez pas votre organisation ici, ne le faites pas parce que c'est une transcription publique. Alors, vous pouvez parler en votre propre nom parce que quelqu'un peut dire, eh bien, je suis un fellow et alors, on dit à la communauté que le programme du fellowship s'accroît de plus en plus. N'ayez pas peur de le faire et ne vous sentez pas mal si vous ne le faites pas. C'est bien l'occasion, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez l'écrire quelque part pour pouvoir mesurer le temps de votre speech. Il y a des gens merveilleux dans la cabine, les interprètes qui doivent suivre le rythme de vos discours. Je vous demande donc de parler clairement. Je veux remercier publiquement, merci les interprètes d'être ici tous les matins à 7h du matin. Alors, ce serait bien de les applaudir. Merci. Ces gens travaillent très, très dur pendant toute la semaine. Je voudrais commencer cette journée. Je ne sais pas si on enregistre déjà. Oui, OK. Génial que je suis à côté de toi, à ma gauche. Et Georges Sadowski, on s'est connus en 2007, ma première réunion, et c'est la première personne. Qui m'a invité à dîner et je lui remercie énormément de tout ce qu'il a fait pendant ces jours-là. Je ne me souviens pas, dit Georges, mais bon, j'imagine que tu n'as pas pu m'interrompre pendant toute la soirée. Hein? Bien, je vous souhaite la bienvenue au processus de l'ICANN. J'ai vraiment un intérêt particulier par les pays en développement et j'aime bien parler notamment de la Mongolie parce que je l'ai visitée en 1974 lors de l'installation du premier ordinateur. Ça fait très longtemps de cette expérience. Il y a beaucoup de progrès qui ont été atteints pendant ces années. Pour avoir une idée de la manière dont je vois la participation, votre participation ici, c'est une grande opportunité pour analyser la manière dont la nouvelle forme de gouvernance évolue, notamment pour ce qui a trait à l'Internet. En 20 années, c'est-à-dire, ceci a démarré en 1979, mais vers la fin des années 80, l'Internet a surgi comme une manière de communication absolument indispensable pour le monde. Et si l'Internet n'existait pas, notre vie serait bien plus pauvre. L'Internet fait partie de notre vie et l'Internet fera partie du monde pendant très, très longtemps. Dans la mesure où vous comprendrez cela, dans la mesure où vous soyez en mesure de comprendre les politiques autour d'Internet, vous vous aiderez vous-même et vous aiderez vos pays. Vous allez beaucoup aider vos pays. L'ICANN fait partie de l'écosystème de gouvernance ayant trait à la fonction de l'Internet et qui permet le fonctionnement d'Internet. C'est une toute petite partie, bien qu'il y ait des milliers de personnes ici et des milliers de personnes qui participent avec des noms et des numéros, ce qui permet le fonctionnement de l'Internet. Mais c'est une partie indispensable, comme par exemple la communication est faite à partir de satellites, de câbles, de communications satellites, des communications sans fil. Tout cela est essentiel également. Cela a trait à l'infrastructure pour envoyer les paquets. Dès que cela est établi, il faut chercher la manière de donner des adresses, des noms dans les nœuds Internet, parce que si je veux vous envoyer un message, j'ai un nom qui est traduit dans un numéro que le réseau peut comprendre et le message peut alors partir. Dans cette administration intégrée, il faut tenir compte que l'ICANN a la responsabilité de tout cela. Il existe par ailleurs d'autres types de questions comme les politiques nationales par rapport à l'Internet, combien de fournisseurs il faut qu'il y ait, quelle est la concurrence, quelles sont les normes par rapport au contenu, comment on protège les consommateurs vis-à-vis des transactions électroniques, quels sont les contrats. Que doit contenir un contrat? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le contrat électronique soit valide dans le système juridique d'un pays quelconque? Avec tout cela, on parle de politique. Mais c'est une partie très, très importante de l'écosystème Internet ainsi que l'ICANN. Ce qui arrive, ou ce qui est arrivé, c'est que si l'on regarde l'histoire de l'Internet, elle a été développée pour la plupart en dehors du contrôle des gouvernements et du parrainage des gouvernements. Il y en a eu, bien entendu, mais en termes généraux, l'Internet est un développement du secteur privé. Et cela est différent du développement de tout autre réseau important fiable. Le système téléphonique, par exemple, était lié aux organisations postales nationales et c'est une activité très régulée par le gouvernement. L'Internet, on l'a appelé une expérience échappée du laboratoire avant de l'avoir fini. Et c'est peut-être une manière de fonctionner intéressante, une manière intéressante de le regarder. L'Internet s'est accru, a augmenté si rapidement que les gouvernements ont eu des difficultés pour comprendre de quoi il s'agissait en premier lieu. Puis, l'utilisation d'une technologie impressionnante. Et puis après, le problème de comprendre la formation des politiques et quelles sont les politiques qu'il faut développer pour que l'Internet puisse fonctionner correctement au niveau national et international. À ce jour, on mène un débat sur l'existence de l'Internet. Nous avons le gouvernement, le secteur privé, le secteur universitaire, le secteur de la recherche. On veut tous voir et on veut faire une liste de priorités, établir une liste de priorités de tout ce qui est important pour le débat du gouvernement. Puis, on va discuter cette question début novembre à Bakou, Azerbaïdjan. Le délégué de l'Azerbaïdjan me fait signe. Il va y avoir presque 2000 personnes dans cette réunion et on va discuter beaucoup de questions déjà mentionnées, notamment l'infrastructure ne va pas assister, mais les niveaux moyens et supérieurs de la gouvernance Internet vont assister dans ce forum. Voyons qu'est-ce que j'ai à dire encore. Cette explosion rapide de la technologie Internet, s'agit d'une gouvernance différente. C'est un modèle multipartite où tous les acteurs pertinents, ceux qui ont vraiment un intérêt, jouent un rôle. Personne n'est absolument essentiel. Il s'agit d'une manière de coopération de tous les secteurs. Et chacun des secteurs peut faire des apports. Chacun a ses responsabilités. Chacun est obligé à considérer ce que les autres secteurs demandent. Et ce que l'on peut percevoir à l'ICANN, c'est justement un reflet. L'ICANN est un modèle multipartite où tous les secteurs participent d'une manière similaire. Cela est difficile pour les gouvernements parce qu'ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas habitués à ce que d'autres secteurs émettent leurs opinions. Nous avons un conseiller gouvernemental, un organisme très sérieux qui représente, je crois qu'on est 120 gouvernements, n'est-ce pas, membres du GAC. Lorsque le Conseil prend une décision, et le GAC n'aime pas cette décision, nous sommes obligés d'expliquer en détail pourquoi on a pris la décision, pourquoi nous trouvons que c'est mieux pour toute la communauté. Et en général, nous n'allons pas contre les souhaits du GAC, mais on peut le faire. Et d'autres gouvernements peuvent également formuler une politique ayant trait à son domaine de responsabilité. Et il existe alors une tension parce qu'il y a des intérêts en conflit. La tension favorise la créativité parce que le progrès est lent, mais ferme. Et nous trouvons que c'est la meilleure route à suivre par le développement d'Internet. Vous allez vous rendre compte qu'il y a différents intérêts, différentes contributions des différents secteurs. Vous le verrez quand vous assisterez dans les différentes séances. Il y a différents types de consensus sur ce qu'il faut faire et sur la manière de protéger cette innovation. C'est ce que je voulais dire. J'espère que si vous me voyez dans les couloirs pendant la journée, vous puissiez m'arrêter et avoir une conversation de quelques minutes. Je veux dire encore autre chose. J'ai été choisie pour venir ici et j'espère donc que vous ayez beaucoup d'enthousiasme avec tout ce que vous avez appris et ce qui arrive chez eux. Ils transmettent le sens de l'ICANN. Vous pouvez enseigner dans votre pays qu'est-ce que l'ICANN fait et quelle a été votre expérience au sein de ce forum. Merci beaucoup.
Good morning. Good morning, Bill.
Bonjour. Bonjour à tous. Je voulais vous montrer quelque chose. Je pense qu'il faut passer un petit peu plus avant le fichier. Je ne peux pas parler quand je suis assise. Bon, mais ça va aller. Voilà le schéma que je voulais vous montrer. Peut-être qu'on devrait mettre un peu de musique pendant qu'on cherche les fichiers. Chanter. Voilà, merci. Bonjour à tous. Bonjour pour tous ceux qui nous écoutent à distance. Je suis président du comité de nomination 2012. Et l'année prochaine, je vais être dans le comité de nomination, mais en représentation de ma région, la région de l'Amérique et des Caraïbes. Je viens du Brésil. Cette année a été une année assez complexe. Je suppose que vous avez entendu des commentaires en ce qui concerne certains blogs qui ont été publiés et qui parlaient de combien nous sommes méchants, etc. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait la réalité. Il y a certainement des personnes qui normalement veulent signaler certains problèmes, mais certains points, bien sûr, certaines questions peuvent être intéressantes à signaler, mais parfois, ils manquent, ils n'arrivent pas à dire toute la vérité. Et finalement, les articles ne sont pas utiles, ces commentaires ne sont pas utiles parce qu'on finit par faire attention à ce qui est mauvais sans faire attention à ce qui est bien fait. Quoi qu'il en soit, nous avons eu notre première année donc de travail avec la question de la responsabilité et de la transparence des ATRT. Et cela a impliqué pour nous de publier tout ce qui se passait dans notre site web. C'est ce que nous avons fait. Nous avons donc publié tous les processus que nous avons suivis, la façon dont nous avons choisi les candidatures, quels sont les candidats, ce que les candidats devaient faire, ce qu'ils ne devaient pas faire, et notamment les conditions exigées pour chaque poste. Et ça, c'est important car il nous faut des personnes qui puissent remplir ces fonctions dans le monde entier. Ce que je voudrais mettre l'accent aujourd'hui, c'est sur ce schéma. Ce schéma représente tous les candidats qui se sont présentés. C'est dommage qu'on ait eu que 7 candidats de l'Afrique. C'est
surprenant ce faible pourcentage. Et en quelque sorte, il nous faut encourager nos collègues, encourager les personnes à présenter leur candidature. En 2012, nous avions une place à l'AC pour laquelle, un poste pour lequel il ne faut pas être un technicien, il ne faut pas avoir été PDG dans une entreprise pour pouvoir remplir ce poste. Il y avait aussi d'autres postes pour lesquels des candidats africains pourraient avoir rempli, que les candidats africains pourraient avoir rempli parfaitement au sein de la Geneso. Le problème derrière tout ça, c'est que les gens n'ont pas conscience de l'opportunité que représente pour eux le fait d'entrer dans l'ICANN. Pour la plupart d'entre nous qui êtes des nouveaux venus, il faut réfléchir à vous-même, réfléchir aux gens avec lesquels vous vivez, les gens avec qui vous partagez votre vie quotidienne dans les universités, les organisations à but non lucratif. Pensez qu'il nous faut des gens qualifiés, des gens de ces régions qui soient qualifiés. C'est très important d'avoir une situation plus équilibrée dans tous les postes de l'ICANN. Faisons donc attention parce que parfois les gens disent « Non, ça c'est pas pour moi. C'est pour des gens plus qualifiés que moi, blablabla. » Mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens dans le monde entier qui ont plus ou moins les mêmes qualifications, qui ont la même sagesse, qui ont la même capacité pour pouvoir relever les défis et résoudre les problèmes. Il nous faut davantage d'Africains. Il nous faut aussi des Américains, des gens des Caraïbes. Même s'il y a eu un pourcentage assez élevé de candidatures de l'Amérique latine. Et pourquoi? Parce que nous avons mené un effort très important. Cette année, dans nos statuts, nous avons incorporé le fait qu'il y ait dans le conseil d'administration au moins un représentant de chaque région, et pas plus de 5 de la même région. Et cette année, 2012, c'était la fin du mandat de Gonzalo, qui était le seul latino-américain dans le conseil d'administration. Nous avons donc mené un effort très important pour convaincre les gens de notre région. Moi, personnellement, j'ai parlé avec plein de personnes. J'ai visité personnellement certains candidats que je considérais préparés pour certains postes. Et à la fin, nous avons pu sélectionner un membre de plus latino-américain. C'est bien que le conseil d'administration, le nouveau conseil d'administration qui commence son nouveau mandat, Georges, que vous venez d'entendre, était l'un des candidats qui a été réélu. Gonzalo a été réélu aussi. Et la troisième personne a été Olga Madruga, une femme cubaine qui habite actuellement en Argentine, mais qui a vécu aux États-Unis et à Genève et qui a un profil très, très intéressant. Il y a certainement d'autres personnes, des gens de l'Égypte, de l'Afrique, mais nous n'avons personnes de l'Afrique subsaharienne. Le temps donc est venu d'incorporer de nouvelles personnes dans ce conseil, dans ces postes au sein de la GNSO. Cette année, nous avons 3 postes pour le conseil. Pour 2013, pour l'année prochaine, 2 postes pour la GNSO. 3 postes pour la LAC, dont 1 pour l'Afrique, 1 pour l'Amérique latine et 1 pour l'Asie-Pacifique. Et 1 poste pour la CCNSO. Il y a donc un grand nombre d'opportunités pour faire partie de ce processus. Je voulais vous montrer donc ce schéma, cette diapo, et on peut entrer dans les détails. Ici, vous voyez les candidats qui se sont présentés plus d'une fois. Voilà la distribution des candidatures, des gens qui décident de présenter leur candidature. Cette diapo, on peut la distribuer, vous pouvez la voir après, plus en détail. On va avancer un petit peu dans le fichier. Voilà, ici. Cette année, nous avons sélectionné 3 femmes. On a obtenu des résultats vraiment très efficaces, car au total, on a 14 femmes, mais nous avons eu beaucoup de chance que tous les femmes qui ont présenté leur candidature étaient vraiment très, très qualifiées. C'est bien qu'on a pu sélectionner les meilleures parmi ce groupe de femmes très qualifiées. Ce qui finit par représenter 14% de l'efficacité, de la participation, pardon, des femmes. Nous avons sélectionné 4 hommes sur 59 hommes qui ont présenté des candidatures. Donc voilà les résultats de notre processus de sélection. C'était un processus très utile et on peut voir qu'on a l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, mais on n'a pas des représentants de l'Afrique. Donc, s'il vous plaît, faites un effort pour contacter des Africains pour qu'ils se présentent comme candidats pour 2013. Tout le monde peut avoir l'opportunité de faire partie de ce processus. Pensez à vos collègues, à vos patrons, à tous ces gens qui pourraient profiter de cette opportunité. Car le fait d'occuper un de ces postes peut changer la vie d'une personne. C'est une bonne opportunité pour être en contact avec bien d'autres personnes dans le monde entier. C'est l'opportunité d'échanger des informations et même d'échanger des opportunités commerciales. On ne peut pas laisser passer ces opportunités. L'Internet est ici aujourd'hui. L'Internet sera dans l'avenir, continuera de faire partie de nos vies dans l'avenir. Et le fait d'être à l'intérieur de l'ICANN, c'est la meilleure opportunité qu'on peut avoir pour évoluer dans ce marché et dans ce nouveau monde que nous voyons émerger. Nous avons donc ici l'Égypte qui apparaît dans la région aussi. Et c'est dommage qu'on ait personne de cette région dans aucune position de leadership. Je suis ouverte à toute question que vous pourriez avoir. Voilà mon rapport. Voilà ma présentation. Si vous voulez un rapport complet, vous pouvez le trouver dans le Nancom, dans le site du Nancom. C'est, il faut se focaliser sur sa région. Je me focalise sur ma région, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'était nancom.br. Je voulais juste que vous sachiez comment présenter la candidature, quelles sont les conditions, les prérequis. Tout cela sera publié en novembre, au cours du mois de novembre, de décembre. Normalement, la page de couverture de notre site, dans la page web de l'ICAN, on fait l'annonce dans cette page que les candidatures, l'appel à candidature est ouvert. Voilà. Vous pouvez lire toutes ces informations sur notre site. Vous pouvez lire tout ce qui s'est passé cette année dans le rapport. Toutes les informations qui peuvent vous intéresser sont là. Et s'il vous plaît, présentez vos candidatures et il faut convaincre vos collègues pour qu'ils fassent autant. Notre région, et notamment cette année, je demande à l'Afrique de faire un effort spécial pour qu'il y ait des candidats africains. Merci beaucoup.
Are there any questions, Ravanda?
Janice, vous avez des questions? Je sais que Vanda est très succincte dans sa présentation, mais je veux signaler que pour plusieurs d'entre vous, c'est votre première réunion et je veux dire, c'est peut-être la première réunion, mais vous n'êtes pas des débutants. Vanda fait partie du membre de sélection des Fellows. Elle connaît bien nos origines et à chaque fois qu'il y a des candidatures qui sont présentées au Nancom, son travail devient de plus en plus compliqué. Il y a eu 171 candidatures et 23 personnes qui sont ici assises autour de la table en tant que Fellows. Vous êtes des nouveaux venus dans ce processus, mais pas dans l'écosystème Internet et pas non plus dans votre domaine spécialisé de travail. Vous n'êtes pas des nouveaux venus pour vos universités, pour le commerce électronique, pour vos organisations, dans vos régions. Vous savez quelles sont les autres voies qui représentent les communautés. Si vous faites un cours à diplôme, où que vous alliez, soyez toujours ouvert, votre esprit, vos yeux, soyez attentifs. Et puis après, vous allez dire, « Oh, cette personne pourrait avoir une influence, cette personne pourrait vraiment parler de ce qui se passe en ce moment, de ce qu'il faudrait faire. » Alors, approchez-vous de cette personne, profitez de la possibilité de parler avec cette personne. Il faut considérer l'engagement du point de vue du temps, bien entendu. Ici, on parle de bénévoles, bien entendu, mais il y a un engagement pour consacrer un certain temps. Mais c'est un travail vraiment très, très satisfaisant. Des questions? Là, il y a une question? Je m'appelle Victor Dono, je viens du Cameroun. Je vais continuer en français.
Je comprends, parfait. Oh, si vous parlez lentement, s'il vous plaît.
Donc, je voudrais tout d'abord remercier Vanda pour le plaidoyer qu'elle fait pour qu'il n'y ait plus d'Africains dans les positions, les postes de décision au sein de l'ICANN. C'est très important. On parle de l'internalisation de l'ICANN et ça ne peut être plus visible que par la diversité des acteurs qui sont au directoire ou à d'autres postes de responsabilité au sein de l'ICANN. Mais je voudrais continuer en disant, lorsque vous participez à une organisation, il faudrait que vous ayez un intérêt, parce que il faut l'avouer, l'ICANN, c'est une organisation dont le cœur de métier, c'est d'abord l'industrie des noms de domaine et les adresses IP. C'est vrai que les politiques qui développées au sein de l'ICANN concernant les adresses IP et les noms de domaine influencent aussi l'Internet en général, son développement et sa structure ouverte. Donc je voudrais, on a parlé l'autre jour de la stratégie ICANN pour l'Afrique, parce que pour que les Africains acceptent cette position de volontaire au sein de l'ICANN, il faudrait d'abord qu'on stimule, qu'on développe l'industrie des noms de domaine en Afrique. Je vais prendre par exemple le GNSO. Si je m'en vais contacter des responsables des entreprises africaines pour les convaincre, si je contacte par exemple mon patron et lui dis OK, il y a un poste, il y a la possibilité que vous ayez à l'ICANN et que vous soyez volontaire au GNSO, alors qu'il n'a jamais entendu parler de l'industrie des noms de domaine, il ne comprend pas l'importance, il va tout naturellement pas accepter l'offre. Donc je crois qu'il y a un travail d'éducation, si je peux dire, et de plus de communication pour que tout d'abord les Africains comprennent qu'il y a une opportunité de business au sein de l'ICANN et vous allez voir naturellement ils vont participer. Non, merci.
I saw the African strategy.
Même en Amérique latine, nous avons mené hier une réunion pour améliorer notre stratégie, qui est très pertinente. Oui, il faut améliorer la stratégie, mais souvenez-vous que nous cherchons des personnes qui non seulement ont ce type de connaissances si profondes au sein de l'ICANN, parce que au sein de l'ICANN, par exemple, le conseil d'administration, les regroupements envoient des gens pour remplir ces postes. Par exemple, Olga, elle appartient au monde des communications et des informations de ce genre de technologie. Elle a donc des connaissances qui ne concernent pas exactement les noms de domaine, mais elle est capable d'apprendre rapidement des gens vraiment brillants qui apprennent rapidement. Il y a pas mal de gens brillants. Alors, on peut travailler dans le domaine des IT. Donc, on n'a pas besoin de personnes très spécialisées. Par exemple, si l'on va à l'ESSAC, eh bien, là, oui, il faut être très spécialisé dans des questions techniques. Pour ce qui est des opérateurs de registre et des bureaux d'enregistrement aussi. Mais ceci est différent. Le comité de domination cherche des gens plus indépendants et voilà donc pourquoi il existe la possibilité d'équilibrer la connaissance si spécifique, si spécialisée avec d'autres. Il y a des gens qui ont des connaissances très poussées sur le système DNS et alors ces gens sont disponibles. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Hein. On dit tout simplement qui veut venir ici et un point, c'est tout. Mais nous avons besoin de nouvelles idées, de nouveaux esprits. Merci de votre question. Nous allons passer au suivant, à l'orateur suivant. Quel est le critère de sélection que le comité de nomination considère pendant la période de sélection? Wanda prend la parole. Merci. Nous avons une liste très longue de critères. Et outre les critères généraux, vous savez, ceux qui ont la capacité d'apprendre rapidement, ceux qui peuvent travailler au sein des équipes, ceux qui ont une personnalité appropriée pour travailler conjointement avec d'autres, parce qu'on parle d'une communauté. En plus de tout cela, pour chacun des postes, il existe une exigence spécifique qui change tous les ans. Mais pour avoir une idée de ce que l'on cherche, vous pouvez visiter le site web et chercher le rapport. Le rapport d'une Nomcom de 2012, vous pourrez voir quelles ont été les exigences pour chacun des postes à remplir, parce qu'il y a une matrice. Nous devons montrer à la communauté que les gens qui ont été choisis sont vraiment adaptés aux critères. Et pardon, ici, on parle des conseillers de la GNSO. C'est la question. Quels sont les critères pour les conseillers de la GNSO? Wanda, il y a 15 points sur la liste, 15 exigences. Je ne peux pas tous les mentionner, mais si vous visitez le site et vous regardez le rapport final. Quelqu'un m'a dit page 19, je ne me souviens pas. Hein? Mais pour chacun des postes, vous avez une matrice, celle que j'ai mentionnée. Et puis après, il y a les exigences. Alors, à chaque fois que vous voudrez poser une question spécifique, vous pouvez m'envoyer un courriel directement et je vais vous répondre. Janice, merci. Hier, quelqu'un a parlé des ressources dans le programme et je crois qu'il y en a qui appartiennent au comité de nomination. Les nouveaux venu pour Cyrenush aussi. Vous pouvez envoyer les questions. Cyrenush va être avec nous. Et c'est un bon point de contact pour tout le monde. Janice reprend la parole. Pardon, il y a une question? Janice, je vais envoyer la question à Wanda, mais maintenant nous aurons le coordinateur, celui qui agit en tant que liaison avec le comité de nomination. En conséquence, toute question posée arrivera au destinataire qui est le responsable au sein de l'ICANN et puis cette question arrivera jusqu'à Wanda. Leslie Galsi, présidente de la CCNSO, a attendu pendant qu'elle prenait un café très gentiment et qui fait toujours une place pour venir dans nos réunions de fellowship. Merci d'avoir attendu si patiemment. Leslie prend la parole. Bonjour à tous. C'est une de mes parties préférées de la semaine. En général, c'est l'une des dernières activités lors du congrès. Je ne sais pas si j'ai des images à vous montrer. Je n'ai pas. Hein. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal pour vous. Je vais vous parler de trois questions différentes. Je vais parler de la CCNSO, comme vous devez vous attendre. Je vais parler un tout petit peu de la manière dont j'étais nommée présidente de la CCNSO. Et finalement, je vais parler des femmes au DNS. Je suis une femme et ce n'est pas normal d'avoir des femmes dans des postes de direction du secteur. Et je vais aussi aborder cette question-là. L'organisation de soutien au nom avec d'autres pays est l'un des domaines clés au sein de la structure de l'ICANN, parce que ce sont les gérants des codes de pays qui se réunissent dans cet environnement. Il est très intéressant parce qu'on ne fait pas beaucoup de travail de politique. Alors, une des présentations que vous avez entendues cette semaine a été le développement des politiques globales. Pour les codes de pays, les politiques se développent dans des pays, dans le Royaume-Uni, en Allemagne, au Costa Rica et ailleurs. Chacun développe sa propre politique. Et ces politiques doivent servir aux objectifs de la communauté du pays en question. Cela doit servir et être d'accord avec la politique nationale, avec les lois nationales, avec les approches sur la diversité, sur la religion, etc., etc. Alors, nous ne venons pas dans les réunions de l'ICANN pour établir des politiques. On fait très peu de travail lié à la politique. Nous travaillons... Ceci appartient au contrat avec Yana, à savoir la gestion avec la zone racine. Il faut voir que le service de la zone racine fonctionne bien. Il faut voir comment on fait le processus des candidatures, parce que si la zone racine ne marche pas bien, par exemple, .uk ou d'autres domaines de ce niveau, seraient sans service. On parle aussi de... politique pour ce qui a trait au nom de domaine internationalisé. Cela a été très positif. Ça a été très positif d'avoir beaucoup de noms de domaine internationalisé avec code de pays qui ont surgi ces derniers temps. Et puis, on fait des travaux de politique liés à la délégation et à la redélégation. Suivant le cas, le pays doit décider si on change l'opérateur de code de pays, comment le faire. Et imaginez-vous qu'il s'agit d'un domaine assez difficile parce qu'il est clair que bien des fois, les gens ne veulent pas redéléguer. Ceci est une source de frustration pour pas mal de gens. Je ne vais pas parler tout spécifiquement de cas particuliers, mais je dois dire qu'il s'agit d'un domaine où le gérant du code de pays et moi-même on sent la responsabilité d'avoir une certaine clarté par rapport au processus lié en ce qui concerne d'autres administrateurs de code de pays. La plupart de la semaine a été consacrée à parler de questions qui nous affectent. Et on est très bon à partager des expériences, des informations en apprenant les uns des autres, en essayant de comprendre quelles sont les idées des autres. Parce que lorsque l'on opère un code de pays, peut-être, on est dans différentes étapes évolutives. Mais bien des fois, on essaie de faire quelque chose et on se rend compte qu'il y a un autre pays qui essaie de faire la même chose ou que quelqu'un l'a fait auparavant. Alors, on peut apprendre de ces autres expériences, savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et nous sommes aussi une communauté très ouverte. Alors, si je devais répéter l'expérience, je changerais telle et telle chose. Voilà le type de débat que nous menons. Un autre élément avec lequel nous travaillons, ce sont les commentaires présenté à l'ICANN. Nous, on est des observateurs du plan stratégique de l'ICANN et nous faisons la coordination et nous donnons notre collaboration au plan de code de pays. Nous pensons aussi au reste de la communauté et nous disons au reste de la communauté ce que nous pensons parce que des fois, il y en a qui disent, eh bien, nous devrions faire des commentaires, nous aussi. Nous travaillons aussi sur le budget de l'ICANN. Nous en faisons des commentaires, comment ce budget peut satisfaire au plan stratégique ou non. On attend le leadership de Fadi dans ce domaine pour voir quelle est l'évolution et le changement au sein de ce processus. C'est la CCNSO Et je suis ici après avoir fini la réunion de la CCNSO et je dois dire que la réunion a été formidable. On a échangé beaucoup d'informations sur le marketing du DNSSEC, le développement et entrée aux politiques. On a eu deux panels très, très intéressants. Le premier sur la CMTI. On a parlé de tout ce qui a trait à l'OIT. Et puis, il y a eu un autre panel lié aux principes, les principes pour les registres des codes de pays. Il y a eu des déclarations très claires disant que c'est la manière d'opérer. Le premier venu, c'est celui qui reçoit le service en premier lieu, le premier venu, le premier servi. Et la semaine a été très enrichissante et je peux répondre à toutes vos questions sur la CCNSO. Mais avant vos questions, je vais vous dire, parce que normalement on me pose cette question, comment es-tu arrivé à ce poste? Et je dois dire que lorsque j'étais à l'université, l'Internet n'existait pas. C'était déjà inventé, mais je ne la connaissais pas. Alors je n'ai jamais eu une ambition de travailler dans un poste ayant trait à la STIC. J'ai été proposée en 1999. Je suis arrivée à travers un opérateur de racines. Avant, j'étais dans les finances, dans l'administration, en essayant que l'organisation soit vraiment efficace et fournir un bon service client. À ce moment-là, quand j'ai été présentée comme candidate, j'ai été nommée, je me suis dit, bah, c'est peut-être important. Hein? On était 28 personnes, je n'avais pas de bureau. Au sein de Nominette, je devais partager une table. Je n'avais même pas de bureau. Hein. Je devais partager la table avec un copain. On n'avait pas de processus, on n'avait pas de procédure, mais on avait beaucoup de papiers. C'était bizarre pour une société Internet, mais voilà, c'était comme ça, la Nominette. Quand j'ai fait l'interview, on m'a demandé, vous avez des problèmes? Et j'ai dit non. Il y a des politiques, parce que moi, j'avais travaillé avec le gouvernement local et je ne voulais pas faire de politique. Non, non, ici, il n'y a pas de politique. 12 années plus tard, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de voyages, des voyages un peu partout. En 2002... J'ai été nommée comme PDG lorsque le fondateur est parti et je dois dire que beaucoup d'administrateurs de code de pays ont suivi le même schéma. Ils ont augmenté, ils se sont développés, la question est devenue de plus en plus compliquée et le fondateur est en quelque sorte un consultant technique et on a embauché des gérants. Et voilà, c'est là que l'on m'a appelé. Pour finir, je devais parler des femmes dans le DNS. Ceci est vraiment passionnant pour moi et je m'excuse avec les hommes de la salle, mais nous avons un petit déjeuner de travail DNS dans toutes les réunions de l'ICANN. Et il y a de plus en plus de personnes qui viennent nous rejoindre. Il y a peu de femmes qui participent de cette industrie, vous l'avez certainement remarqué. Moi-même et d'autres collègues, nous essayons de faire ce qu'il faut pour que ceci puisse se développer. On parle avec les gens au sein des universités, avec des gens qui ont déjà reçu leur diplôme pour parler des prochaines démarches qu'ils peuvent suivre et raconter aux femmes combien ce monde peut être intéressant. Il y a quelque chose que nous appelons les filles à l'IT ou les femmes à l'IT. Le 26 avril de l'année prochaine, il y aura la prochaine réunion au DNS. Nous essayons d'encourager hommes, femmes et organisations de l'industrie à faire quelque chose toujours là, que ce soit parler avec la presse locale sur les opportunités existantes, ouvrir le bureau pendant une journée, inviter les femmes et d'autres personnes pour qu'ils puissent comprendre notre travail ou peut-être aller dans une école et parler, permettez-moi de vous raconter quel est mon travail, quels sont les défis, etc. Si vous voulez nous aider, je vous demande de me le dire. Ce qui est bien de l'ICANN et de la CCNSO, c'est que nous, on peut faire quelque chose au niveau global. Et maintenant, je vais répondre à toutes vos questions.
Vanda.
Je parlais avec Vanda. Quand on disait qu'il fallait trouver des personnes, et notamment des femmes, quelle est la période et combien de temps consacres-tu à cette activité en tant que présidente de la CCNSO? En tant que présidente de la CCNSO, je travaille 5 heures par semaine à peu près. C'est beaucoup moins que la présidence précédente. Car j'ai un groupe de conseillers de toutes les régions. C'est un excellent groupe. J'ai des vice-présidents qui sont aussi excellents. Je les ai convaincus de m'aider. Donc, il y a des semaines où les vice-présidents travaillent davantage que moi. Mais à l'ICANN, les tâches se répartissent, se distribuent au long de la journée, tout au long de la journée. J'espère que ces organisations de soutien, les présidences, travaillent en même temps. Mais il n'y en a pas, il n'y a pas une semaine très longue. On parle en général de 3 à 5 heures par semaine. J'aimerais savoir quel est le nouveau défi pour les CCTLD dans le cadre des nouveaux GTLD. Ma deuxième question est de savoir comment, je voulais savoir comment j'ai été à des réunions de la CCNSO et j'ai vu des pays qui essayaient de travailler sur le deuxième niveau de domaine. Il y a marketing de nom de domaine de premier niveau ou de deuxième niveau? Il n'y a pas une solution unique pour tout le monde. Il y a certains codes de pays qui ne s'inquiètent pas des nouveaux GTLD dans leur pays et ça peut répondre au fait qu'ils connaissent très bien la situation ou qui ne le considèrent pas comme un problème, alors que dans d'autres cas, comme c'est le cas de ma propre société, où l'on pense comment, où l'on envisage comment faire la commercialisation des nouveaux GTLD, ça fait partie de notre plan stratégique. On s'est dit point UK, est très populaire, alors comment les nouveaux GTLD vont nous impacter? En ce moment, on mène des consultations pour ouvrir le deuxième niveau. Pour le moment, nous avons une sous-structure avec .s.uk par rapport à laquelle nous menons une consultation afin de voir si l'on peut enregistrer directement sous .uk. C'est une consultation très fréquente. On a reçu près de 300 questions. Et à mon avis, c'est l'un des choix qui ont été faits il y a quelque temps. Le fait d'avoir cette structure de sous-domaine qui n'est peut-être pas la décision correcte pour la communauté. La communauté doit nous dire quelles sont ses inquiétudes. Il y a des pays qui mènent des consultations dans le même sens. Mais les nouveaux GTLD auront un impact sur le marketing ou sur la façon de faire du marketing. Nous avons eu des différents débats au sein de la CCNSO et je crois que les nouveaux GTLD ont fait en sorte qu'un grand nombre de codes de pays commencent à envisager ou à réfléchir à la façon dont ils mettent en place leur marketing pour augmenter peut-être la visibilité de leur profil vis-à-vis des médias et pour rappeler aux citoyens de leur pays qu'il y a un choix et qu'ils doivent prendre leur décision avec suffisamment d'informations. Je crois qu'il y a beaucoup d'intéressés. Je vois Point Green, par exemple. Chacun des business doit prendre sa propre décision. En tant qu'opérateur de nom de code de pays dans mon pays, nous essayons de donner aux personnes suffisamment d'informations pour qu'ils puissent prendre une décision. Une question d'un participant à distance. Ce qui m'inquiète, le point LLC, c'est la question ou c'est une affirmation? Je pense que c'est plutôt une affirmation. C'est un commentaire. Leslie prend la parole. Oui, j'ai bien compris le commentaire. Il y a une autre participation. J'aimerais demander à Leslie sur la participation d'Argentine, plus précisément par le biais de point AR et point NC dans la CCNSO. Leslie prend la parole. N'importe qui peut participer à la CCNSO. Nous avons 134 membres avec l'incorporation de la Grèce hier. Mais il ne faut pas être membre pour pouvoir participer. Il n'y a aucune redevance à payer. Et en fait, lorsqu'on parle de la CMTI, au début de la semaine, il y avait un grand nombre de personnes qui ont participé parce qu'ils étaient très intéressés à cette question. Donc, si les questions liées au code de pays vous intéressent, ou même des questions liées au sujet que nous abordons, vous êtes les bienvenus à participer. Les gestionnaires des codes de pays peuvent nous dire comment avancer. Mais vous pouvez tous participer, vous êtes les bienvenus à participer. Merci, je suis Andreas Lamenia de Swaziland. Vous avez parlé de ces noms de domaines internationalisés et une question m'est venue à l'esprit. Je me demandais si c'est une question d'internationalisation ou de localisation. Par là, je veux dire que maintenant, un nom de domaine chinois n'aura plus le CN à la fin, mais le code chinois. Et je me demande si Internet, en tant que réseau global, qui comprend le commerce international, le délit informatique qui traverse les frontières, vu tout cela, je me demande si on trouve un site web qui est complètement en code chinois. Si on ne connaît pas ce code, on ne va pas savoir à quel pays cela appartient ou à quelle langue cela correspond. Il n'y aura aucun indice qui nous permette de le savoir. Je me demande donc si la CCNSO pourrait trouver un moyen pour que ça devienne identifiable pour une personne qui ne connaît pas ce code. Avoir une idée, par exemple, du pays dont il s'agit ou de la langue dont il s'agit. Une fois, il m'est arrivé que je lisais un site web de la Chine. C'était un site web, une page web chinoise, et j'avais la version en anglais et la version en chinois. Je lisais la version en anglais et tout d'un coup, j'ai cliqué sur le lien pour passer à la version en chinois. Et quand je me suis retrouvée devant la version en chinois, je voulais revenir en arrière pour la version en anglais, vers la version en anglais, mais je ne savais plus comment faire. Je ne savais plus comment revenir en arrière sans devoir tout refermer et recommencer parce qu'il n'y avait aucun caractère latin ou rien en anglais qui me permette de savoir comment faire pour revenir en arrière. Et c'est à ça que je pensais. Maintenant, quand l'on parle de délits cybernétiques, que l'on parle du commerce international, pourrait-on penser à quelque chose qui pourrait nous aider avec cette question liée aux différentes langues pour avoir des indications sur l'origine de ces codes? Leslie prend la parole. C'est une question merveilleuse, Andreas. Heureusement, je ne suis pas la seule personne qui est confrontée à cette... à ce problème. Une fois, j'ai dû refermer mon ordinateur pour pouvoir tout recommencer. Je ne vois pas que la solution à ce type de questions techniques rentre dans le rôle de la CCNSO. La CCNSO aborde plutôt les questions liées au code de pays, des pays qui veulent avoir des choses dans leur propre langue. C'est vrai que l'Internet devient global et en même temps local. Et en particulier, l'Internet change parce qu'il ne faut plus lire et parler en anglais pour pouvoir y participer. Et un grand nombre de personnes, dont moi-même, avons été très respectueux avec le reste du monde en disant « Vous pouvez utiliser l'Internet, mais tout doit être en anglais. » Cela n'était pas quelque chose de bien. Et l'obstacle qui empêchait donc cet accès aux gens qui ne parlaient pas l'anglais disparaît. Mais nous sommes à une étape un peu précoce dans le développement technique des langues et des traductions. Et je suis sûre qu'il y a des gens très intelligents qui très prochainement seront capables de développer des moyens pour pouvoir traduire le matériel de telle sorte que le navigateur puisse savoir si de ce que contient un site web en chinois, par exemple. Mais on n'est qu'aux étapes précoces. Je pense que dans quelques années, on regardera en arrière en comprenant qu'on n'était qu'au début. Il y a un grand défi devant nous pour que l'Internet devienne à la fois global et local. L'important, c'est de ne pas créer des silos où l'on ne puisse participer que si l'on parle une langue en particulier. C'est mon avis personnel, non pas celui de la CCNSO. Je suis Feather, je viens de la Russie. J'aimerais poser une question pour mettre l'accent sur certains aspects liés au nouveau GTLD. Comme nous savons déjà, la CCNSO inclut actuellement des gestionnaires de GTLD avec des codes de pays. Et nous savons aussi que les gestionnaires de GTLD se présentent à la GNSO. Depuis la dernière fois, la situation change. Un grand nombre de registres de CCTLD présentent des candidatures pour des nouveaux GTLD génériques. Je vous donne un exemple. Pour la Russie, le registre de CCTLD a présenté une candidature pour un TLD en cyrillique qui peut être traduit comme « enfant ». Alors, que voit-on par rapport à la structure actuelle? Que pensez-vous? Pensez-vous que ça va changer? Les gestionnaires des CCTLD ne demandent pas seulement des TLD, mais des GTLD génériques. Voyez-vous des conflits d'intérêts dans ce sens? Leslie prend la parole. Non, je ne crois pas que ce soit quelque chose de nouveau. Je ne pense pas que cela pose des problèmes. Cela arrive depuis longtemps. Les opérateurs de GTLD qui opèrent des CCTLD et qui envoient des personnes à la GNSO pour qu'elles parlent sur des politiques liées au domaine générique et en envoient d'autres pour qu'ils parlent devant la CCNSO sur des questions liées au code de pays. Ils s'occupent des génériques et des codes de pays. Et cela n'est pas nouveau. Par exemple, il y a .us et .info. Il y a plusieurs opérateurs qui opèrent dans ces deux univers, pour ainsi dire. Avec les nouveaux GTLD, la structure de l'ICANN va être modifiée à long terme. Pas forcément, parce que les sociétés vont s'occuper des codes des pays et des génériques en même temps, mais plutôt parce qu'on va incorporer de nouvelles communautés pour la première fois. Si vous pensez à 1900 opérateurs qui se présentent pour parler de politique, bien évidemment, tout cela va changer la façon dont nous travaillons. L'autre jour, j'ai eu une réunion à 7 heures du matin pour parler de la façon dont l'impact sur le générique va avoir un impact aussi sur la structure de l'ICANN. Mais peut-être que la CCNSO ne devrait pas changer parce que des codes de pays s'occupent des génériques ou vice-versa, parce que cela, ça arrive depuis longtemps, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Janice prend la parole. Si vous me permettez, je vais intervenir. Leslie, du point de vue de la présidence, l'idée d'un travail entre regroupements se retrouve aujourd'hui dans les programmes des réunions. Il y a une séance intercommunautaire entre les différents regroupements. L'ICANN s'internationalise. On a besoin d'un ICANN qui puisse avoir des liens forts entre les participants. Nous savons que il y a différents groupes avec différents programmes, mais quel est ton avis par rapport au fonctionnement de tout cela? Leslie prend la parole. Moi, je penserai à la présentation d'ouverture de Fadi. Si vous avez été là, vous avez écouté qu'il a décrit comment la structure côté personnel était en train de changer. Nous avons des lignes verticales, et l'on peut dire, je travaille dans le département de finances ou dans les finances. Ce que Fadi disait, c'est qu'il fallait avoir une organisation matricielle. Où il y a un travail en Afrique, par exemple, il fallait tout inclure. Je pense que la structure de l'ICANN doit évoluer dans le même sens, avec la CCNSO, avec la GNSO. À un moment donné, nous allons nous regrouper pour parler, par exemple, nous allons nous retrouver pour parler sur des questions qui impactent sur toute la communauté pour pouvoir faire en sorte que ces groupes qui se trouvent dans la ligne verticale et dans la ligne horizontale se retrouvent. Et pour cela, il faudra penser de façon intelligente pour tout faire rentrer dans un même calendrier. Bien sûr, il y a des gens plus calés dans cette question qui seront plus capables de le faire. Mais il y a bien sûr des idées ou des questions transversales qui touchent à toute la communauté, comme par exemple la cybercriminalité. À l'ICANN, avant de parler des GTLD, on avait ces départements ou ces domaines transversaux. On a perdu un peu de vue ces aires transversales quand on a abordé les GTLD pendant 6 ans. Mais je pense qu'il faut s'occuper de tout ce qui est vertical et horizontal. Janice prend la parole. Du point de vue du personnel, je pense qu'au cours des 2 dernières réunions, le fait de ne pas se réunir les vendredis et de finir jeudi constitue déjà un changement. Mais hier, on a été les hôtes des séances de diffusion. À la réunion de Prague, on avait 50 personnes. Hier, on avait commencé avec 5 personnes. Il y a tellement de réunions qui sont organisées dans une même journée. 5 réunions, on a eu 5 réunions au lieu d'une réunion hier. Donc cette multiplication des réunions montre combien il y a des sujets qui sont importants à traiter au niveau des différents regroupements et des différentes matrices. Quand on a entendu parler une fois l'équipe de sécurité et puis les groupes de travail, le travail se fait de façon plus efficace. Leslie prend la parole. Je ne vais pas être populaire après ce que je vais dire, mais je pense qu'il faudrait peut-être travailler vendredi, mais finir un peu plus tôt. En ne pas travaillant vendredi, en théorie, c'est très bien parce qu'on a un jour en moins. mais j'ai l'impression que nous essayons tous de faire rentrer davantage d'activités dans les autres jours de la semaine. Et cela va poser de plus en plus de problèmes. Si nous devons aborder des questions importantes et qu'il n'y a que 5 personnes dans une salle, ce n'est pas parce qu'il n'y a que 5 personnes qui s'y intéressent, mais probablement c'est parce que ces 5 personnes ont fait le choix d'aller à cette séance au lieu d'aller aux autres 4 réunions qui ont lieu en même temps. Cela rend difficile les débats ou les échanges. Parce que quand on a un petit nombre de personnes dans une salle, on n'obtient pas la diversité et la profondeur que l'on souhaiterait pour certaines réunions. Il faudrait donc y réfléchir. Peut-être qu'on pourrait travailler vendredi et finir à midi, par exemple.
Ok, merci Dijani, merci Leslie d'être venue ici nous parler. À chaque fois que nous voyons toutes ces questions, eh bien, tu réponds toujours très bien. Merci beaucoup, encore une fois. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser. Après la soirée de gala, je dis de si bonne heure. Si vous ne souvenez pas de vos questions, vous pouvez les transmettre plus tard à travers vos rapports ou à travers le courriel et je vais les faire parvenir à Leslie. Souvenez-vous que vous commencez à être des anciens élèves ici. Il y a le groupe des anciens élèves, des anciens participants qui peut vous aider à répondre à des questions. Heather, voici ta place habituelle pendant toute la semaine. Je voudrais vous présenter Heather Dryden, présidente du comité consultatif gouvernemental du GAC, qui va partager avec vous un peu d'informations sur ce comité et voir comment elle est arrivée à ce poste si impressionnant comme présidente et voir si elle veut continuer. Je vois cela d'un côté. Je vois qu'il s'agit d'une fonction vraiment compliquée. Il y a des gouvernements, des intérêts politiques, les régions. C'est vraiment difficile. Je cède maintenant la parole à Heather Dryden. Merci, Janice. Bonjour à tous. Je m'appelle Heather Dryden. Je suis la présidente du comité consultatif gouvernemental, le GAC, tel que Janice vous l'a mentionné. Je travaille pour le gouvernement canadien. Je suis fonctionnaire public du ministère canadien de l'Industrie. Je suis responsable de la gouvernance Internet et des politiques Internet au sein du gouvernement canadien et je préside ce comité à l'ICANN. Nous avons un comité assez nombreux, formé de 120 gouvernements environ. Nous avons aussi des observateurs, des organisations au nombre de 25. Alors, les membres du GAC se réunissent pour donner un avis communiqué formellement au conseil d'administration de l'organisation. Nous travaillons sur la base du consensus et notamment, on est concentré aux questions liées aux politiques publiques. Si vous observez l'équilibre géographique du comité, eh bien, pour nous, c'est très important de maintenir cet équilibre. Nous travaillons ardument pour encourager la participation des gouvernements au sein du GAC et pour nous assurer que l'avis donné par le GAC soit pris en compte et prenne en compte aussi les perspectives régionales et nationales de nos membres. Nous travaillons sur un vaste éventail de questions, ce qui représente un énorme défi pour le GAC. Il y a beaucoup de travail qui est fait dans l'organisation et nous devons choisir certaines questions auxquelles on puisse consacrer toute notre attention. Cela implique pas mal de difficultés. Moi, j'appartiens à une organisation où le processus de politique est démarré en dehors du gouvernement, du comité gouvernemental. Normalement, on a beaucoup de pression pour faire des progrès rapidement et plus rapidement peut-être que dans d'autres environnements gouvernementaux plus traditionnels. Voilà donc la base de notre travail. Donner du conseil au conseil d'administration et travailler avec les autres organisations de soutien, avec les autres comités consultatifs pour donner notre avis. Chacun de nos membres a un processus de préparation, subit un processus assez prolongé parce que nous avons besoin d'approbation interne pour présenter les positions dans le comité consultatif. Lorsque l'on vient dans les réunions, il faut accorder sur certains points. Nous essayons d'arriver à un consensus sur la plupart des questions traitées. Et chaque semaine, on établit un communiqué qui a été mis hier soir. On a fini très tard, hier après-midi, pardon, on a fini très tard de rédiger le rapport et le présenter à la communauté pour que tout le monde puisse voir quels ont été les résultats de la réunion du GAC. C'est important pour les gouvernements de maintenir ce genre de négociation et d'avoir une bonne réunion capable de créer ce rapport. Voici donc le fonctionnement de ce comité consultatif et je ne sais pas si on a suffisamment de temps pour des questions ou enfin ce que vous vouliez présenter. Je m'appelle Rosalia Morales, je viens du Costa Rica. J'ai une question. Vous avez mentionné des observateurs, que vous aviez 25 organisations qui travaillent comme observateurs. Pourriez-vous nous dire comment ils opèrent au sein du GAC, Heather? Oui, nous avons certaines organisations régionales. Il y a aussi des organisations d'experts. L'OMPI, par exemple, concentré sur la propriété intellectuelle. Il y en a d'autres, comme la Commission de l'Union africaine, c'est-à-dire des organisations régionales. Il y a ce genre d'organismes qui font le rapport au travail du GAC. En ce qui concerne le fait de faire partie du GAC, alors il présente une demande et s'il y a un accord, normalement c'est comme ça. S'il s'agit d'une organisation intergouvernementale, l'acceptation est assez directe pour que cette organisation rejoigne le GAC comme observateur. C'est pratiquement la même procédure que l'on utilise pour devenir membre. Il y a une question à distance. Pourriez-vous donner une idée de quelle est la participation générale de la région des Caraïbes au sein du GAC? Participation en termes de quantité de gouvernement, de nombre de gouvernements des Caraïbes représentés et type de questions à traiter. Oui, il existe la participation des Caraïbes. Je ne crois pas pouvoir donner un chiffre. Il y a beaucoup de participation et normalement, ils sont intéressés à une question en particulier. Ce qui arrive, c'est que maintenant, avec le programme des nouveaux GTLD, nous pouvons voir qu'il y a une participation plus active et qu'il y a plus de membres justement en vertu de ce nouveau programme. Tout cela vient des Caraïbes et d'ailleurs dans le monde. La vice-présidence, un vice-président récemment élu vient de Trinité et Tobago. Et il restera en fonction jusqu'à la fin de la réunion de Beijing. C'est donc une bonne participation. Je vais parler en français.
C'est OK. OK. Je voulais savoir quelle est la perception de la contribution que vous avez des pays africains comparée aux grandes puissances qui sont en Europe et en Amérique. Comment vous percevez leur contribution comparée à tous ces leaders? La deuxième est de savoir, dans un milieu comme le président, le CEO l'a dit récemment, quand on veut ouvert, pourquoi est-ce que vos réunions sont souvent à huis clos, fermées? Ok, c'est tout. Merci.
Heather, merci beaucoup. En termes de participation de la région africaine et des pays en voie de développement, nous cherchons toujours la manière pour qu'ils puissent participer afin d'avoir une représentation équilibrée au sein du comité. Il y a plusieurs modalités pour ce faire. Pour la première fois dans cette réunion, nous avons les 6 langues des Nations Unies plus le portugais. Pour l'interprétation simultanée, nous essayons d'encourager de cette manière la participation. Je peux dire que oui, c'est important pour le comité de garantir que nous avons la participation de toutes les régions. Pour ce qui est de la deuxième question que j'essaie de me rappeler, ben oui, c'est les réunions. La plupart des réunions du GAC sont ouvertes. Mais, c'est-à-dire, on me pose cette question normalement parce qu'il y a des réunions qui sont à huis clos. Mais dernièrement, la plupart des réunions, c'est des réunions ouvertes et je crois qu'elles devraient continuer. Pourtant, il y a des moments où nous avons besoin de faire des réunions à huis clos, notamment lorsqu'il faut parler, il faut aborder des questions internes ou de questions que d'autres parties de la communauté débattent dans des réunions à huis clos également. Janice, je crois qu'il est important, si l'on voit les sessions des organisations de soutien et des comités consultatifs, ils mènent tous des réunions à huis clos. Et bien des fois, ils ont besoin de faire des réunions à huis clos. Ce n'est pas pour exclure les autres, mais pour se donner le temps de discuter des questions internes en face à face. Il y a aussi le soutien pour les voyages, bien que le GAC utilise ce support pour aider ceux qui autrement ne pourraient pas venir dans nos réunions. C'est une des manières que nous avons de promouvoir l'inclusion pour avoir des représentants de tous les gouvernements. C'est quelque chose de différent du terme « fellows » que nous utilisons, mais l'idée, c'est d'avoir la représentativité. Je viens du Cameroun. Ma question est très simple. Il y a eu un long débat sur l'UIT et la Conférence mondiale sur les télécommunications internationales, sur la modification du traité des télécommunications internationales, le RTI, et une partie de ces modifications, notamment avec ceux ayant trait au travail des CAN liés à la distribution des adresses IP. Je me demande, parce que je sais que l'UIT est aussi une organisation membre et l'ICAN à le GAC où nous avons des représentants des gouvernements. Et je ne sais pas si le GAC a fait une déclaration ou a fixé, a établi une position disant voilà ce que nous pensons, ce qui est bien pour l'avenir de l'Internet et que cette position ait été publiée pour que ce que je veux dire, c'est qu'une position du GAC devrait considérer un environnement plus vaste que celui du personnel du GAC. Merci. Heather? Le GAC est concentré dans la création, dans la production d'avis liés au système de noms de domaine et aux aspects des politiques publiques au sein de ce système, ainsi que de la coordination des noms et des numéros sur Internet. la prochaine conférence n'est pas dans l'ordre du jour du comité. Nous ne parlons pas directement de cette question, mais oui, vous avez raison. Lorsque vous dites que beaucoup des gouvernements qui participent du GAC sont des États membres de l'UIT et d'autres organismes des Nations Unies. Mais il n'y a pas de déclaration de position du GAC à ce sujet. Nous jouons un rôle différent et nous avons d'autres fonctions à remplir. J'espère avoir répondu à votre question. Janice, bien, je crois que nous sommes tous prêts pour finir la semaine. Merci beaucoup, Heather, d'être venue. Si vous avez des questions sur le GAC, souvenez-vous que Tracy sera notre vice-président. Et il participe des deux mondes. Alors, si vous avez des questions, j'aimerais les recevoir et puis les faire circuler. Mais je crois qu'il y a encore un dernier commentaire.
Mon nom, c'est Cheikh Bay, je viens de la Mauritanie. Et je pense que Victor vient de soulever quand même une question qui est assez importante. Il y a beaucoup de gens qui sont très jaloux sur le modèle de fonctionnement de l'ICANN aujourd'hui. Il y a des gens qui sont très préoccupés par le fait que ça puisse changer. Il y a des gens qui aimeraient qu'Internet reste ouvert, qui ne voient pas pourquoi on change quelque chose qui se développe, alors qu'on voit des intérêts ou des groupes militer ou travailler pour un autre mode de fonctionnement. Et donc, l'argument, ou l'un des arguments que nous avançons souvent, face à ces positions auxquelles nous n'adhérons pas, c'est de dire, au niveau de l'UIT par exemple, ce sont surtout les voix des gouvernements. Au niveau de l'ICANN, vous avez aussi la possibilité en tant que gouvernement de donner votre avis. Et ça se passe dans le cadre du GAC. À la différence qu'il y a d'autres formes de présentation, qu'il y a la société civile qui est présente, qu'il y a les intérêts commerciaux, qu'il y a les académies également dans l'ICANN. Et donc, pour que cet argument aboutisse, pour que cet argument donne des résultats, on ne peut pas négliger le fait que le GAC doit se renforcer davantage, ne peut pas rester un peu à l'écart de ce débat. La question que je me pose, c'est la réunion justement qui aura lieu à Dubaï et dans laquelle on va évoquer la question de la gouvernance de l'Internet. Est-ce que, sincèrement, le GAC aujourd'hui, son mode de fonctionnement va tenir compte de cette réunion, de la problématique de la gouvernance de l'Internet? Ou est-ce que vraiment le GAC va continuer tout simplement à fonctionner et que vous ne jugez pas fonctionner de la manière avec laquelle il a fonctionné jusqu'à présent et que pour vous il n'y a pas vraiment de risque? Est-ce que vraiment vous pensez qu'il y a un risque de changement du mode de gouvernance de l'Internet ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas vraiment de risque? Merci.
Heather, merci de votre question. Je représente le GAC et les positions du GAC, mais il n'y a pas de position vis-à-vis de cette question venant du GAC. Nous, on se concentre en général sur l'avis, sur le conseil, sur des questions ayant trait au rôle de l'ICANN. Il est aussi important de signaler qu'il y a beaucoup de gouvernements au sein du GAC qui sont représentés aussi dans d'autres organisations, comme par exemple l'Union internationale des télécommunications. Il y a beaucoup de gouvernements qui sont engagés avec les deux modèles. Et ces gouvernements vont voir quels sont les différents rôles, les différents mandats de chacune de ces organisations. Nous pouvons débattre et donner du soutien aux organisations sur cette base-là. Janice, merci. Maintenant, nous finissons le travail de cette matinée. Je tiens à vous remercier, à me remercier tous les fellows qui sont en ligne. Je sais bien qu'il y en a d'autres qui partent. Je vais vous dire au revoir aux interprètes. Merci beaucoup de leur temps et de leur travail, de tout ce qu'ils ont fait cette semaine, aux gens du secteur technique également. Et je vous demande de tout prendre pour aller dans notre prochaine réunion. Merci.